Geläisch zum Viertreff von Haut, no enger Introduktion durch die Präsidentin von der Lützebäuer Kommission für die Kooperation mit der UNESCO, der Simon Beck, kommen wir dann bei der Viertreff von Denis Guto. Weitere Informationen und Fotos zur Konferenz fand ihr wie gewinnt auf unserem Internetsite radio100.7.lu. De Mikro ging ich da weiter für Le Rendezvous de l'UNESCO, Haut wie angekündigt, le patrimoine industriel, objet de nostalgie ou sujet de recherche.
Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis ravie de pouvoir vous accueillir si nombreux au troisième des rendez-vous que la Commission luxembourgeoise pour la coopération avec l'UNESCO vous donne. Ceci avec l'aide amicale et très précieuse du Cercle Cité et de la radio Renaud-Comasive. Nous sommes par ailleurs heureux que notre cycle de conférences ait reçu le label de l'année européenne du patrimoine culturel, coordonné à Luxembourg par Beryl Bruck et Marc Rettel au ministère de la Culture. Lors de ces rendez-vous, nous vous proposons des approches inhabituelles à la notion de patrimoine. Ainsi, en octobre de l'année dernière, Elisabeth Kolz, Patrick Tondlinger et Paul Lesch nous ont présenté le patrimoine artistique, immatériel et audiovisuel. Début décembre, Sonia Kmes s'est penchée sur la question s'il y a un lien entre patrimoine et identité, au pluriel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Denis Guto du Centre de recherche pour l'histoire contemporaine et digitale du Luxembourg, qui nous parlera du patrimoine industriel. Notion surprenante, en effet, que celle d'un héritage, car c'est là que patrimoine veut dire, un héritage industriel. Qui hérite de qui? Qui a constitué ce patrimoine? Dans quel but? Qui l'a fait grandir? Qui l'a transmis? Et qu'en fait l'héritier? Le patrimoine industriel a ceci de particulier qu'il s'agit bien de structures matérielles. Dans le cas du Luxembourg, de galeries, de mines, d'usines, laminoirs ou hauts fourneaux, mais plus que tout autre patrimoine, il a conditionné, formé et forgé, si j'ose dire, la vie de centaines de milliers de personnes pendant des siècles. Souvent venus de loin, ces travailleurs se sont installés chez nous et ailleurs. Ils ont apporté leur part à ce patrimoine dont certains découvrent seulement maintenant la richesse et l'importance. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent des gens qui ne se rendent pas compte de la beauté, de la diversité et de l'immense intérêt des régions du Minette. La vie dans une localité au sud du pays était du temps des Schmelzen tout à fait différente de celle dans un village qui n'était pas situé en terre rouge. Il y avait, comme dit Denis Guto si joliment dans la chronique qu'il a publiée au Tageblatt du 8 avril 2017, donc il y avait des levées de soleil en pleine nuit, et des sirènes qui nous appellent sans nous séduire. Aujourd'hui, une visite du musée des mines à Rumelange nous permet de nous rendre compte des conditions de travail dangereuses et difficiles des mineurs et des chevaux, sans lesquels le travail des hommes n'aurait pas été possible ou certainement plus pénible. Nous regardons ces galeries avec un respect teinté de crainte. Nous nous demandons comment des êtres humains ont pu creuser cette terre dure avec des instruments si lourds. Nous écoutons les explications des guides, dont bon nombre ont encore travaillé dans les galeries, et pourtant, nous ne réalisons pas vraiment. Si nous visitons le Hallergrund, nous voyons une salle des pendus, nous voyons des douches et les éveillés dans lesquels les mineurs se sont lavés avant de rentrer chez eux. Nous voyons des photos avec des mineurs italiens portant des borsalinos, moyen de protection bien fragile qui a précédé les casques d'aujourd'hui. Nous voyons des explosifs et des bougies, nous voyons une cuisine d'ouvriers, et pourtant nous avons du mal à nous imaginer un monde comme l'ont décrit Friedrich Engels ou Émile Zola. Et pourtant ces hommes ont forgé notre patrimoine industriel avec leurs femmes et leurs enfants qui les ont attendus dans les quartiers exigus qui détonnent avec les quartiers habités par les maîtres de forge et les ingénieurs. Les uns et les autres font partie de notre patrimoine. Ils sont, comme dit Michel Pauli, je le cite, des repères qui balisent notre chemin, des rappels de l'art de construire, d'habiter, de travailler, de passer ses loisirs. Plus important encore, et je le cite toujours, cet environnement fait partie des souvenirs qui façonnent, qu'on le veuille ou non, notre identité d'adulte. l'UNESCO retient, et ceci uniquement en Europe, 47 sites industriels inscrits sur la liste du patrimoine mondial et 22 réserves de biosphère situées sur des terres vouées dans le temps à une activité industrielle poussée. Parmi ces sites, il y a 35 mines. Mines de sel, calcaire, or, cuivre, plomb, argent, fer, silex, mercure et charbon. 7 usines sidérurgiques, 5 industries textiles et 13 infrastructures hydrauliques. Mais il y a aussi des lignes de chemin de fer, des aqueducs, des canaux, des moulins à vent et des paysages forgés et formés par l'activité de l'homme. Cet inventaire de la créativité et de la productivité industrielle dressé par l'UNESCO est un sujet passionnant qui pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière. C'est justement cette interaction entre l'homme et la nature qui est au centre du projet UNESCO sur lequel notre commission, avec un groupe de travail, travaillons pour le moment le programme « L'homme et la biosphère ». Son but est d'analyser dans une région définie l'impact que le travail de l'homme a eu ou a sur la nature, de voir comment celle-ci reprend ses droits, si dans cette reprise elle est de nouveau guidée par l'homme, et si oui, comment et dans quelle mesure. Le programme « L'homme et la biosphère » met un accent particulier sur la recherche. Recherche du passé qui a formé cette région, recherche sur les habitants qui y vivent, leur origine, immigration, interculturalité, sur les écosystèmes et la biodiversité, recherche aussi pour l'avenir d'une région dans le contexte d'un développement durable. Ceci dans le but de créer ou de renforcer une prise de conscience de l'importance d'une région, de ses origines, de ses particularités, et de la soutenir dans ses efforts d'un avenir plus durable. La Commission luxembourgeoise pour la coopération avec l'UNESCO a, comme je vous l'avais dit, constitué un groupe de travail qui travaille depuis plusieurs mois sur le concept d'une candidature des régions du sud-ouest du pays pour le programme de l'homme et de la biosphère. Cette région, couverte par les communes du Pro-Sud, bénéficie déjà maintenant d'un tissu associatif riche et diversifié qui travaille dans les domaines les plus divers et qui profitera beaucoup d'un réseau mondial dans ce qui concerne les échanges des bonnes pratiques, les contacts et les informations. Il nous tient aussi à cœur de voir cette candidature pour le programme de l'UNESCO « L'homme et la biosphère » dans le grand contexte de HESH 2022. Permettez-moi de citer Denis Couton encore une fois avant de lui donner la parole. Qui sait, peut-être que même les décideurs économiques et politiques nationaux percevront enfin ce patrimoine, non comme des ruines rouillées, poussiéreuses et sales, mais comme des ressources pour le développement économique, écologique et culturel de ce pays et de ses régions. Et ceci dans le but pour que notre passé ait un avenir. Je vous remercie de votre attention et j'accueille Denis avec plaisir.
Chère Simone, chers amis du patrimoine, mesdames, messieurs, permettez-moi de commencer cet exposé justement par le poème, ce poème déjà relevé par Simone Beck, le poème d'une femme, d'une grande poétesse du bassin minier lorrain luxembourgeois, qui a écrit des poèmes en français et en luxembourgeois. Anne Blanchot-Philippi est née à Audaltiche en 1928 d'une mère luxembourgeoise et d'un père lorrain, Jean Philippi, chef comptable à la Société des Mines de Terre Rouge, approvisionnant l'usine de Terre Rouge située de l'autre côté de la frontière à Esch-sur-Alzette. Après avoir fréquenté le collège des mines à Audin, puis le collège à Loudun et le lycée des jeunes filles à Esch, elle a fait des études d'anglais et d'allemand à Nancy et Paris, a été prof d'anglais à Gérardmer, Toul et Metz avant de mourir trop tôt en 1985 à l'âge de seulement 56 ans. Le poème s'intitule « Mon pays ». Il a été publié à l'époque où il y avait encore les éditions RTL pour ce genre d'ouvrage. Il s'agit d'un hymne à la région de la Minette qui a obtenu en 1982, dans une version mise en image pour RTL Télévision par le professeur et cinéaste de la Heule, l'ami Gastrolinger, le premier prix de poésie des télévisions francophones à Montréal. Je cite. « Dans mon pays du fer, la nuit n'est pas la nuit. Elle est pleine d'éclairs, elle est pleine de bruit. Et l'aube n'est pas l'aube au ciel de la coulée. Le jour n'est pas le jour dans la ville enfumée. Le vent n'est pas le vent, il n'a plus qu'un seul chant, celui de la machine et de l'acier grinçant. L'été n'est pas l'été dans les boyaux de mine, l'hiver n'est pas l'hiver au feu de nos usines. Près du crassier ne sont plus arbres, les ormeaux, et la sirène n'est pas nymphe au bord de l'eau. Les mâts de par ici ne sont mâts de misaine. Le sable n'est point sable sur la dune en claine. Dessous le poussier roux, la fleur n'est point lilas. Mais moi, je ne suis moi que dans ce pays-là. » Mon pays du bassin minier, celui effectivement que décrit Anne Blanchot-Philippi à l'époque, celui des levées de soleil en pleine nuit, de la chaleur près des hauts fourneaux dans les aciéries et les laminoirs en plein hiver, de l'obscurité dans les galeries en plein été, des mâts sans voile mais avec les wagonnets de la Seelebund, des sirènes qui nous appellent sans nous séduire. Un poème est peut-être le mieux à même de nous faire comprendre que le patrimoine, dans ce cas industriel, ne se définit pas d'abord par la qualité esthétique de tel ou tel bâtiment ou objet, mais bien plus par la façon dont il a imprégné toute une région ou alors tout un domaine politique, administratif, social, sociétal, par les fonctions qu'il a exercées en tant que document d'une façon de vivre et de travailler à une certaine époque, et qu'il peut s'agir à la fois, les rendez-vous ici le montrent, d'un patrimoine matériel et ou immatériel. Une partie du patrimoine industriel du sud du Grand-Duché, je l'ai montré en tant que jeune professeur stagiaire d'histoire au lycée classique d'Echternach à mes élèves de 3e C, il y a longtemps, il y a 27 ans, en 1991, non sans leur avoir posé d'abord la question ce que le bassin minier et Esch-sur-Alzette représentaient pour eux, qui vivaient dans une région différente du pays. Et un élève eut l'honnêteté de me répondre qu'il s'imaginait la ville d'Esch comme un trou noir rempli de poussière et de fumée. Enfin, un seul avait ce courage, les autres l'ont peut-être pensé. Pendant plusieurs semaines, j'ai ensuite réalisé avec eux un projet pédagogique sur Esch en leur donnant l'occasion de découvrir par eux-mêmes sur place les traces de l'histoire échoise, les traces d'une époque, celle de l'industrialisation et de l'urbanisation du sud du pays. Pendant toute une journée, nous avons exploré ensemble, avec l'aide d'experts locaux, la métropole du bassin minier. Puis nous avons conçu un circuit culturel industriel suivant le concept « Learning by going ». Il fut publié dans les colonnes du Tageblatt pendant l'été 91 et puis comme livre aux éditions Le Phare sous le titre « Industrie, Kultur in Esch ». C'est d'ailleurs, je crois, mon seul livre qui a été un best-seller tout de suite et qui s'est vendu. Et je n'ai moi-même qu'un exemplaire que j'ai dû reprendre à ma belle-mère. Donc. Mais je voyais qu'elle l'utilisait peu, donc... Et grâce au projet, donc, les élèves ont réalisé qu'on ne peut connaître et reconnaître une région que si on dispose d'un vrai savoir sur elle. Partant de ce circuit culturel, si nous nous référons à notre sujet d'aujourd'hui, le patrimoine industriel, objet de nostalgie ou sujet de recherche, nous nous rendons compte que cet intitulé accrocheur est légèrement trompeur et masque en fait le véritable enjeu qui n'est autre que le processus de patrimonialisation, de mise en patrimoine. J'ai à l'époque confronté les élèves avec ce que, à la même époque, Umberto Eco a qualifié de, je cite, « logique de la trouvaille ». expression que le sociologue Jean Davalan a repris pour comprendre pourquoi des outils, des objets, des bâtiments prennent une valeur particulière lorsqu'ils sont, je cite, « les représentants d'un monde disparu ou en train de disparaître, celui des parents ou grands-parents, de son enfance, etc., et constitue le dernier lien matériel et réel avec des êtres dont on se dit héritier ». Fin de citation. Ces objets deviennent patrimoine culturel pour lequel des gens ressentent un devoir moral de faire connaître cet héritage. Illustrons ce processus de patrimonialisation par un exemple tiré de ce circuit culturel industriel. L'élève Jeff Steil a écrit la notice sur la mine Cockerill, appelée également Collar ou Katzebirsch. Pour accéder à cette mine en friche, nous avons dû, en 1991, nous frayer un chemin à travers la broussaille. La végétation avait complètement recouvert l'entrée du site minier fermé en 1967. Ici et là gisaient des lambeaux de polystyrène, des restes de l'activité industrielle qui avait pollué le site après la fermeture. Avant que l'État n'acquière les lieux en 1988, les responsables de l'administration de la nature et des forêts, ensemble avec les bénévoles et passeurs de mémoire ouvrière de l'entente mine Cockerill, ont sauvé, rénové et reconverti ce site unique dans l'histoire de l'industrialisation et du pays de la Terre Rouge. Ce site est emblématique du passé industriel et unique parce que cette mine que les châtelains et industriels de père en fils Collard acquiert en 1881, constitue un des derniers reflets culturels bien conservés de l'époque pré-industrielle au Luxembourg, même si 1881 est déjà une date tardive, mais ces bâtiments construits par les frères Collard nous renvoient en effet au début de l'industrialisation, lorsque les fabriques exprimaient encore, en fait plutôt au XVIIIe siècle d'ailleurs, lorsque les fabriques exprimaient une rationalité en harmonie avec le paysage. Il évoque une époque où l'intervention de l'industrie sur l'environnement reste encore mesurée. C'est ce que des historiens de l'art belges ont appelé, je cite, « une fabrique ensevelie dans le paysage ». Fait exceptionnel, les bâtiments ont presque tous été conservés. Logements, entrées de galeries, centrales électriques, bureaux du Porion et de la délégation, scierie, forge, l'installation bain-douche, la fameuse salle des pendus, chapelle de Sainte-Barbe, dont la statuette a néanmoins disparu et a été remplacée pour que ce rituel du 4 décembre puisse se perpétuer de nos jours. Ces bâtiments sont aujourd'hui réaffectés comme centre d'accueil pour découvrir la réserve naturelle, Ellergrön, ou la mine, ou comme bureau du garde forestier, comme café-restaurant, salle d'expo, salle de classe, etc. Cette mine est emblématique et unique et se présente par exemple comme l'antithèse des usines du XXe siècle, comme par exemple l'ensemble gigantesque de Belval, usine construite de 1909 à 1912 sous le nom de Adolf Emil Hütte par la société allemande Gelsenkirchener Bergwerks AG, à l'époque la deuxième société allemande derrière Krupp et en concurrence avec Thyssen. Donc voilà l'industrie conquérante. L'usine de Belval a fini par dévorer plus de 200 hectares, le bois de Clairechène qui avait été jusque-là l'aire récréative de la population ouvrière d'Esch a dû lui céder la place et à la métropole du fer. Donc l'usine a lancé un défi il y a 100 ans en disant pratiquement « la ville, c'est moi ». La mine Cockerill a été sauvée dans le cadre d'un processus de mise en patrimoine qui caractérise les dernières décennies dans le sud du Luxembourg comme dans d'autres régions historiques et industrielles européennes. Que signifie la mise en patrimoine? Elle signifie surtout une rupture dans le temps qui fait changer ces objets de statut, qui les fait basculer du monde de l'utilité économique et existentielle dans le monde de la mémoire. En même temps, ils deviennent porteurs de sens de ce passé. Ils rendent présent le passé. Ce processus signifie, d'un côté, la perte de ce monde. Dans le contexte de l'industrialisation, la population ouvrière s'était construite en un siècle une légitimité sociale et économique, celle de la création de richesses, mais celle aussi d'un capital culturel, rituel de métier, mode de sociabilité, acquis sociaux obtenus par des luttes syndicales. Ce processus signifie, d'un autre côté, la survie et la récupération de la reconnaissance sociale à travers la mémoire, par la reconnaissance de la valeur, par exemple, d'un site minier comme Coqueril à garder pour les générations futures. Cette reconnaissance, j'y reviendrai, passe par plusieurs étapes, par la décision de conserver des traces de cette culture, par la description du site, par son authentification, par le tri de ce qui sera restauré, de ce qui sera détruit ou monnayé, puis l'exposition du site et sa présentation au public. Ce monde révolu de l'ouvrier mineur a été reconnu au Luxembourg à travers plusieurs sites que vous connaissez. Il en a déjà été question, le Musée national des mines à Rumelange dès 1973, le Minetpark Fond de Gras, les ardoisières de Martelange, les mines de cuivre de Stolzenbusch. Et contrairement à l'ouvrier d'usine, l'ouvrier mineur a même son monument national au Leifreschen à Kiel, avec les noms des environ 1500 ouvriers morts dans les galeries ou les mines à ciel ouvert. Nous ne sommes donc pas en face d'un simple culte nostalgique, même si la nostalgie, sentiment très humain, y joue évidemment un rôle, mais d'une approche de recherche, plus précisément de recherche-action, même en l'absence, malheureusement encore au Luxembourg, d'une masse critique de chercheurs en patrimoine diplômés. Cette recherche-action passe par plusieurs phases, bien résumées par Jean Davalon, déjà cité. Première phase, c'est l'intérêt porté à l'objet par un groupe social plus ou moins large, plus ou moins organisé. Cet intérêt montre qu'il s'agit là d'une trouvaille. Deuxièmement, deuxième phase, la production de savoir sur l'objet et sur son monde d'origine. Troisièmement, la déclaration du statut de patrimoine avec trois obligations qui en découlent, sauvegarder, mettre à disposition pour la collectivité et transmettre aux générations futures. Donc, vous avez dans ce statut déjà les phases 4, donc l'organisation de l'accès de la collectivité à l'objet patrimonial par des visites et expositions, par exemple, et cinquièmement, la transmission également pour les générations futures. Les militants de l'entente Mine Coqueril, comme tous ceux et toutes celles, et il y en a ici dans la salle, qui s'engagent depuis des années pour la sauvegarde de telle ou telle maison de maître, d'une ancienne ferme, d'un ancien bâtiment administratif, d'un quartier, voire, comme le projet de l'UNESCO en ce moment, de tout un espace naturel comme l'espace transfrontalier de la Terre Rouge, participent en fait à beaucoup d'étapes de cette recherche-action que constitue la patrimonialisation. Premièrement, le collectage. Tous ceux qui ont lutté et luttent pour la sauvegarde de tel ou tel bâtiment ont collecté des documents d'archives, des photos, des objets, des témoignages, du matériel audiovisuel. Il y a des sites web, industrie.lu, hein, il est ici, qui est dans cette optique de collectage. Deuxièmement, l'inscription symbolique, en inscrivant par des gestes ce site dans la mémoire, comme par la production de textes, de circuits culturels ou écologiques, de portes ouvertes, de brochures d'histoire locale, de cycles de conférences ou encore de récits autobiographiques ou de poèmes comme Anne Blanchot-Philippi. Troisièmement, par l'action culturelle ou politique, par des actions politiques comme la création d'associations militantes pour la sauvegarde du patrimoine et, évidemment, quatrièmement, la conservation, lorsque cela réussit, par la sauvegarde des traces du travail et du lieu de travail. Dans ce contexte du patrimoine industriel, Il est important de souligner que nous vivons au Luxembourg un double processus de patrimonialisation. D'une part, ce processus est achevé pour le monde de la mine et de l'ouvrier mineur, tout comme pour celui de beaucoup de petites et moyennes entreprises, d'autres secteurs industriels disparus. Mentionnons à titre d'exemple l'industrie du cuir et du textile et ses objets de patrimoine conservés et réaffectés. La Schunkfabrik de Tétanche, la ganterie du Grund, les draperies de la Schleifmühlen, les draperies et la fabrique de textile Vestimenta de La Rochette, la draperie d'Esch-sur-Sûre. En revanche, ce processus n'est pas achevé pour l'usine et pour l'ouvrier d'usine. La dernière mine sur le territoire luxembourgeoise a fermé en 1981. Bon, celle entre Esch et Oudin a fermé en 1997, je crois, mais elle était sur sol français. Alors que des usines, les usines de Differdange, de Belleval et de Redange, continuent à produire des poutrelles, des pales-planches, des rails de tram. Le monde de l'ouvrier d'usine disparaît lentement tout en restant présent. D'une part, les directeurs d'usine, les responsables politiques et syndicaux s'engagent pour que l'activité économique sidérurgique du groupe multinational ArcelorMittal continue aussi sur le plan national, donc au Grand-Duché. D'autre part, sur les friches où le travail appartient au passé, à Belleval, à Terre-Rouge, à Esch-Sifflange, les vestiges de la sidérurgie doivent être protégés, restaurés, reconvertis, mais sont souvent menacés, mutilés, voire détruits. Et les acteurs de cette deuxième lutte, celle pour la sauvegarde du patrimoine industriel lié aux usines, éprouvent de grandes difficultés à s'imposer contre des logiques économiques et mercantiles. Parce que, nous le savons, nous ne le disons pas assez, la destruction de monuments industriels rapporte de l'argent à certains. En détruisant la centrale thermique sur le crassier de Terre-Rouge à Esch, une destruction qui s'opère actuellement sous nos yeux, des entreprises peuvent récupérer le laitier de haut fourneau qui se trouve en dessous de cette centrale thermique et ses matériaux, comme nous le savons, depuis notre école primaire, pourront ensuite être traités et revendus comme produits pour la construction routière notamment. D'autres monuments de l'industrie sont menacés de destruction car leur valeur architecturale n'est pas reconnue et le terrain sur lequel ils ont été bâtis vaut son pesant d'or au Luxembourg. ArcelorMittal n'est pas seulement producteur d'acier, il est également promoteur immobilier. Et le respect et la valorisation culturelle de son patrimoine n'est malheureusement pas le premier de ses soucis. Nous espérons qu'en vue de Esch 2022, cela va changer. Mais il faudrait peut-être inviter un de ses responsables à nous en parler lors d'un des prochains rendez-vous de l'UNESCO. Replaçons maintenant le patrimoine industriel dans le contexte global de la sauvegarde ou non-sauvegarde du patrimoine au Luxembourg. En commençant avec le regard de quelqu'un qui étudie une période fort éloignée de la nôtre. Un exposé de l'archéologue et chargé de direction du Centre national de recherche archéologique, Fonny Lebrun, portant sur le patrimoine préhistorique, auquel j'ai assisté il y a un certain temps déjà, constitua un tel regard. Il traitait, entre autres, de la période où les premières communautés agro-pastorales se sont installées sur le territoire qui s'appelle aujourd'hui Grand-Duché de Luxembourg et qu'ils y ont construit les premiers villages, donc il y a environ 7000 ans. Contrairement à d'autres régions dans le monde, il n'existe plus chez nous, évidemment, de forêts vierges. Cette végétation naît à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans. L'extension du mode de vie sédentaire a eu comme corollaire le déboisement progressif du territoire au fil d'un processus millénaire. Mais de nouvelles forêts sont nées et ont recouvert le territoire du comté puis duché de Luxembourg à point tel qu'en annexant le duché, les Français lui ont attribué en 1795 le nom de département des forêts. Comme l'a montré l'archéologue Fonny Lebrun en parlant de ce patrimoine préhistorique, en fin de compte, les forêts apparaissent au Luxembourg comme les seuls sanctuaires relativement à l'abri de destruction. La forte couverture forestière est notamment une aubaine pour les archéologues, a souligné Fonny Lebrun, puisque dans le sous-sol de ces forêts, le plus souvent protégées par des lois sur le patrimoine naturel, les traces de notre passé tombent de l'âge du bronze, fortifications de l'âge du fer, villas gallo-romaines, etc., échappent à la destruction. Une comparaison qu'il a faite a montré quel grand danger plane sur le patrimoine archéologique des surfaces non boisées du territoire. J'étais étonné d'apprendre que durant les deux dernières décennies, donc en 20 ans, les pouvoirs publics et les personnes et entreprises privées ont bâti et donc consommé et bétonné davantage de terrains que pendant les deux derniers siècles. 2000 nouveaux bâtiments sont construits tous les ans au Grand-Duché. Dans notre société de croissance, d'après Fony Lebrun, 10 km carrés sont aménagés par an à un prix de vente moyen de 3 000 à 5 000 euros le mètre carré. Je ne sais pas si les prix sont encore actuels. On a construit de 1995 à 2015 à Luxembourg autant que les 200 ans auparavant. Construit et souvent en même temps détruit. Non seulement les traces archéologiques du passé dans le sous-sol, mais encore par an 100 édifices dignes d'être protégés. D'après des estimations du journaliste Jochen Zenthöfer, à ce rythme, la majeure partie du patrimoine culturel architectural sera détruit dans notre pays d'ici 40 ans. Depuis 1995, c'est l'année où Luxembourg fut pour la première fois capitale européenne de la culture. L'historienne de l'art Antoinette Laurent et moi-même avions dédié dans le Tageblatt une série d'articles tout au long de l'année à ce que nous appelions, je cite, « la maison d'en face », un état des lieux partiel et partial aussi, de maisons à restaurer, de rénovations intelligentes et d'autres qui ne l'étaient pas, de démolitions opérées et de destructions à venir et si possible à éviter. L'historien Michel Pauli avait, et Simone a déjà cité une partie de cet article, consacré la même année un long article dans le Luxembourger Land au sujet « Quelle politique du passé pour notre avenir ?». Le titre était d'ailleurs une allusion à la campagne que le Conseil de l'Europe avait déclenchée en 1975 déjà, année européenne du patrimoine architectural, autour du slogan « Un avenir pour notre passé ». Il avait dit, et je cite in extenso, « L'homme fréquente quotidiennement des immeubles et autres vestiges du passé, que ce soit au village ou en ville. Ces immeubles sont des repères qui balisent son chemin, mais ce sont en même temps des rappels de l'art de construire, d'habiter, de travailler, de passer ses loisirs des générations précédentes. Qu'il s'agisse d'une ferme du XVIIIe siècle, d'un abattoir datant des années 20, d'un château fort du XIVe, d'une maison de maître du XIXe, d'une usine construite au début du XXe. Ces bâtiments renvoient le passant à une tradition architecturale et historique plus vieille que lui. Il sent qu'il n'est pas seul, qu'il ne doit pas inventer le monde. Ces immeubles ont imprégné notre enfance, cet environnement fait partie des souvenirs qui façonnent, qu'on le veuille ou non, notre identité d'adulte. Les détruire, c'est détruire une partie de notre âme. Bon, j'ajouterai qu'évidemment, des bâtiments datant d'époques plus récentes sont tout aussi dignes d'être sauvegardés. L'usine de Chifflange, fermée depuis 2012, même si elle a été fondée en 1870, est en fait une installation qui témoigne de la façon de bâtir une usine dans les années 50 et 60 et mérite à ce titre d'être considérée. Mais on entend déjà que y a rien là, c'est pas das nicht so wert. Le bâtiment qui abrite le musée de la police grand-ducale, construit dans les années 50, est à la fois témoin architectural et témoin culturel d'une administration de l'État qui nous concerne tous, je crois, à certains moments. Qu'on n'aime pas, mais bon. Donc c'est une partie de notre âme. Et si on parcourt le week-end le pays, on se rend compte combien de cette âme est entre-temps en voie de disparition ou a déjà disparu. Et on se réjouit du peu lorsque dans tel ou tel village, une maison de maître typique, une ancienne ferme, une forge a survécu à la spéculation immobilière lorsqu'une personne privée ou des citoyens engagés ont su s'imposer face aux promoteurs ou au collège échevinal. À l'image de ce copain à moi qui, à Schronfeil, a seulement pu acquérir la maison de maître du 19e siècle et tenir tête aux promoteurs lors de la vente aux enchères parce qu'une vieille dame qui jouait enfant dans cette maison, ce n'était pas sa famille, mais elle y jouait enfant, et elle ne voulait pas laisser détruire cette partie de son âme, s'est levée pendant cette vente aux enchères et a avancé une somme considérable à ce copain à moi pour que lui puisse avoir cette maison. En tant que randonneur, que ce soit à pied, à vélo, en moto ou en décapotable, on regrette amèrement que la protection du patrimoine culturel, architectural, industriel n'ait pas pu s'imposer chez nous au cours des dernières décennies, au même titre que la protection de l'environnement naturel. Les paysages naturels luxembourgeois que nous traversons sont beaux et souvent bien préservés, mais le paysage bâti est de plus en plus défiguré. Comme l'a formulé le député libéral André Bauler dans une interpellation à la Chambre en 2015, le patrimoine, je cite, « le patrimoine est le parent pauvre de la politique nationale ». Je me demande d'ailleurs comment le gouvernement entend intégrer cette évolution dans sa campagne de nation branding. Comment communiquer la défiguration des villages dans l'espace rural et la démolition de témoins historiques ou architecturaux précieux dans les villes? Comment promouvoir un pays où le droit de disposer et de profiter librement de sa propriété privée constitue le droit suprême, le seul qui compte, du moins en matière de construction, un droit qui ne saurait être troublé par le droit de la communauté à la protection et à la préservation de son héritage culturel? J'avais intitulé une autre chronique sur le patrimoine ou sur la non-sauvegarde du patrimoine. Je cite « Quand la richesse appauvrit ». En Italie, tous les biens culturels architecturaux de plus de 30 ans sont d'office protégés. Au Luxembourg, la proposition du mouvement écologique de protéger tous les édifices construits avant 1950 n'a pas été retenue. Et ceci, en plus, est une façon de parler. La proposition n'a pas été retenue dans un projet de loi qui a lui-même été retiré de la circulation. Si quelqu'un sait où en est le projet de loi sur le patrimoine, où il a disparu, dans quelle cave, dites-le-moi. Faites-le savoir, faites-le savoir. Ah, c'est... OK. Donc, dans la loi sur la protection du patrimoine en vigueur actuellement, aucune date de protection n'est indiquée. Cette loi date de 1983. Donc d'une époque, et les plus jeunes ici ne s'en souviennent même pas, ou n'arrivent même pas à se l'imaginer, une époque où le Statec tablait sur une diminution de la population du pays. 1983, crise sidérurgique. Et la population, inimaginable aujourd'hui, du Luxembourg, avait effectivement diminué de 1981 à 1983. Donc nous étions en pleine crise de la sidérurgie, une époque où personne ne pouvait prévoir, évidemment, le boom financier et immobilier qui allait imprégner le pays les trois décennies suivantes, et cela continue. Mais en 1995, cette réalité était devenue palpable. Et pour adapter la loi aux circonstances nouvelles, un projet de loi relative à la protection et à la conservation du patrimoine culturel fut déposé à l'époque par la ministre de la Culture, Erna Hennico-Schöpfschess, le 17 octobre 2000. De 2000 à 2007, il n'y eut pas moins de 7 versions de ce projet, 3 avis du Conseil d'État, à côté d'avis de la Chambre de commerce et du mouvement écologique. La Commission parlementaire de la Culture y consacra 39 séances. En décembre 2007, la loi numéro 4715 était fin prête et le Conseil d'État était d'accord avec le dernier train d'amendement, et puis elle a disparu, mais sans qu'il y ait une annonce de la police, à l'image des 100 témoins de notre patrimoine culturel qui disparaissent par an, va savoir pourquoi. En 2012, la ministre de la Culture, Octavie Maudot, chargea ensuite le juriste français François Desseilles de présenter les modalités juridiques en matière de protection du patrimoine sur le plan national et européen, ce qu'il développa dans un rapport confidentiel de presque 700 pages. En 2014, eurent lieu les assises du patrimoine. En 2015, lors de l'interpellation à la Chambre déjà citée, le porte-parole du LSAP pour les questions culturelles, Franz Fayot, y a fait écho en dressant le maigre bilan comparatif du Grand-Duché. 1000 objets protégés sur 5000 à conserver, ce qui représente seulement 0,7% de la totalité des bâtiments du pays, contre 2,5% protégés en France et 2,8% en Allemagne. Le gouvernement actuel a annoncé un nouveau projet de loi en 2015, resté sans suite depuis. Depuis, on est à la recherche de ce projet de loi. Donc après les débats qui durent depuis plus de 20 ans, ce qui est le pire, c'est que les solutions sont pourtant, justement, depuis cette époque, sur la table. La nécessité d'un inventaire et d'un programme national cohérent, une administration de protection des sites et monuments nationaux qui a les moyens pour le mettre en pratique et qui est à l'écoute des acteurs de la société civile impliquée, la protection d'objets particuliers mais aussi d'ensemble, la combinaison d'une protection au niveau national et au niveau communal et des critères scientifiques pour définir le patrimoine à protéger. Il appartient désormais au gouvernement, au prochain gouvernement, au Parlement, à l'État, de prendre leurs responsabilités. Comme l'a rappelé François Desseilles, l'enjeu est fondamental pour notre pays auquel toutes et tous les responsables politiques ne cessent pourtant de proclamer haut et fort leur attachement. Je cite François Desseilles, « Seule l'élaboration d'une politique générale en matière de patrimoine culturel accompagnée de normes assez strictes pour être respectées, mais équilibrées pour garantir les droits fondamentaux de chacun, pourra être un rempart contre les menaces qui pèsent tous les jours sur le patrimoine culturel du et au Grand-Duché de Luxembourg. Ces menaces entraînent notamment l'appauvrissement du patrimoine culturel national, la défiguration du paysage urbain et des agglomérations, et plus largement, la dégradation du cadre de vie. » Fin de citation. Revenons, pour terminer, au processus de patrimonialisation en matière de patrimoine industriel. Dans ce deuxième processus de patrimonialisation, celui des usines, où nous nous trouvons dans les premières phases d'authentification, de reconnaissance comme patrimoine, il est bon de rappeler encore une fois que ce processus n'est pas seulement lié à des études historiques ou techniques ou ethnologiques. J'en ai fait l'expérience à Belval, où je faisais partie d'une commission chargée d'élaborer justement un processus de sauvegarde, de conservation, voire de réaffectation de la terrasse des Hauts Fourneaux, une étude dont malheureusement j'ai appris par la suite qu'évidemment elle n'avait aucune chance d'être considérée. Dans chaque institution luxembourgeoise en charge d'authentifier ce qui relève du patrimoine, il y a des représentants des entreprises. Cela se résume pour ce genre de patrimoine dans 90% des cas à ArcelorMittal, des pouvoirs publics en charge de l'aménagement du territoire ou du bâti. Et dans l'ombre, il y a le lobby des promoteurs immobiliers, dont certains se demandent si ce n'est pas lui qui décide en fin de compte dans ce domaine et non les pouvoirs politiques qui en ont reçu démocratiquement la mission. La terrasse des Hauts Fourneaux de Belval en constitue le meilleur exemple. Ces Hauts Fourneaux n'ont pas été traités comme monuments qui témoignent à la fois de l'histoire du fer et de l'histoire des ouvriers du fer, comme documents de l'histoire technique et industrielle, comme documents de l'histoire sociale, mais plutôt d'une part comme vecteurs de reconquête économique, de revalorisation du bassin industriel, dans une vue de décentralisation, comme espace de reconversion et d'autre part comme capital, dans ce sens que le démantèlement et la vente de parties des installations a rapporté de l'argent, tant par la vente elle-même de la ferraille que par les commandes passées aux entreprises de démolition et de reconstruction. Très actuellement, j'aurais une question. Comment se fait-il qu'un des bâtiments, un des seuls bâtiments qui ait gardé son mystère sur cette terrasse des Hauts Fourneaux, les Halles Soufflantes, n'ait pas encore été restauré, alors que 5 millions d'euros figuraient bien dans le plan pluriannuel d'investissement du Fonds pour les monuments historiques en 2012. Comment se fait-il qu'il n'y a toujours pas d'accord donné par le ministère de la Culture quant à leur mise à la disposition pour ESH 2022, alors que les organes responsables d'ESH 2022, alors que l'université également, le demande explicitement? Quels promoteurs, quels entrepreneurs sont intéressés par cette surface en plein nouveau quartier Belval et qui les appuie? Cette logique économique se retrouve sur toutes les friches industrielles luxembourgeoises et est oubliée, ou du moins pas assez thématisée en public lorsqu'on évoque le processus de mise en patrimoine. Il serait peut-être utile que tous les organes de presse de ce pays ajoutent à leur rubrique quotidienne, à côté des rubriques politiques, société, économie, culture, sport, Stade Land, faits divers, une rubrique consacrée au patrimoine. Au milieu d'énormes enjeux économiques, l'influence de passeurs de mémoire sur la configuration de l'espace que le passé nous a légué est en effet encore trop faible et manque d'appui, que ces passeurs de mémoire soient d'anciens ouvriers, employés, fonctionnaires, ingénieurs, architectes, historiens, chercheurs en patrimoine, protecteurs des sites et monuments ou écologistes, ou alors simplement fils et filles ayant quitté la condition sociale de leurs parents, mais poussés par une volonté de préserver quelque chose du monde de ses parents et grands-parents. Leur poids est minime par rapport à celui des décideurs politiques et économiques. Mais quand ces passeurs de mémoire réussissent à sauver une partie du patrimoine culturel et architectural de ce pays, les mêmes pouvoirs politiques, tout comme le grand public, découvrent tout à coup que de vieilles pierres constituent en fait de grandes ressources architecturales et urbanistiques. La mine Coquerille en est l'illustration. Le site souillé des années 1990 représente aujourd'hui un atout culturel et touristique pour la ville d'Esch et pour la région. Mais si des passeurs de mémoire comme ceux de l'antan de mine Coquerille ne s'étaient pas mobilisés il y a plus de 25 ans, à côté de passionnés évidemment de l'environnement naturel, ce patrimoine aurait disparu. Comme le montrent ces rendez-vous organisés par la Commission luxembourgeoise pour la coopération avec l'UNESCO, que je remercie beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui, l'UNESCO a non seulement découvert les traces de l'activité industrielle dans le paysage de la terre rouge, du minerai de fer, mais elle les considère comme des ressources. Le syndicat de communes ProSud demande l'inscription du paysage qui va de la Harz, du Lange au Gehlebotter et au Fond de Gras en passant par l'Allagrone dans le programme mondial de réserve de biosphère et la candidature d'Esch et des communes du Sud pour capitale culturelle de l'Europe 2022, candidature qui a été un succès puisque Esch 2022 est devenue réalité, a fait de la valorisation du patrimoine industriel et culturel un de ses quatre piliers. De ce pays, de la terre rouge, justement, chanté, mis en poème par Anne Blanchot Philippi, et je voudrais donc terminer également, comme j'ai commencé, par un poème d'Anne Blanchot Philippi. Ce poème s'appelle « Ma terre rouge ». Ma terre rouge. Terre à barrière, barbelée, terre à frontière, temps foulé, ma terre à fer, au ventre creux, qui nourrissait les miséreux, venus de quatre coins du monde, ma terre que l'Alzette inonde, ma terre où tout mirage est mort, ma terre de devant les forts, devant les portes de la France, qui n'est point terre de vacances, ma terre au langage bâtard, pour qui l'on n'a point de regard, ma terre où la flamme s'est tue, ma terre en marge, méconnue, que l'on traverse sans détour, les yeux tournés vers Luxembourg. Ma terre, moi, je te dis belle, ma terre aux senteurs de cannelle, Avec ton val aux trois étangs et ta crinière verte au vent, avec tes flancs cousus de lierre, ta nécropole sous la pierre, avec tes jardins incarnats, la glèbe des sentiers grenats, que neige peu à peu découvre la faille du sous-bois qui s'ouvre. Terre audunoise, d'où je suis, où s'embrasait hier la nuit, ô toi ma douce, toi ma rousse, ma terre où la violette pousse dans la rocaille du ravin, que l'on ne dise point demain, ma terre ardente et mal aimée, que nul ne t'a jamais chantée. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, Denis. Et vous voyez, c'est ça aussi l'UNESCO, qu'on puisse réciter des poèmes en parlant de patrimoine industriel. Quelqu'un d'autre qui l'a magnifiquement chanté, cette fois-ci, c'est Bernard Lavilliers, dans sa chanson sur la vallée de la Fensch, qui n'est pas très loin de notre bassin luxembourgeois.
Viens, petite sœur au blanc manteau, viens, c'est la balade des copeaux. Viens, petite girl in red blue jean, viens, c'est la descente au fond de la mine. Viens donc renchouter du désespoir, viens donc visiter mes lamis noirs. Viens donc chevaucher les grands rouleaux et te coincer la tête dans un étau. Viens, petite femme de Saint-Tropez, nous on fume la cam par les cheminées. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Viens, petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage au devin d'elle. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la Fensch, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Y'a moins de chevaux et de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Une belle femelle de métal, je t'invite dans mon carnaval. Ici la cadence c'est vraiment trop, ici y'a pas de place pour les manchots. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Tu ne connais pas, mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris, c'est plein d'étincelles surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois il y avait des rigolos, ils ont tous fini dans un lingot. Le ciel a souvent des teintes étranges, le nom des patelins se termine par ange. C'est un vieux pays pas très connu, y a pas de touristes dans les rues. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Viens, petite sœur au blanc manteau, viens, c'est la balade des copeaux. Viens, petite girl in red blue jean, viens, c'est la descente au fond de la mine. Viens, c'est la descente au fond de la mine.